Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 95, Daf Tzadik He. Bonne écoute et bon limoud.
Yavat Paisat Minai, si on était en meilleur terme, Milosaf Yelecha Mishor Shel Patam de Avadeti Etmol, je t'aurais donné du bœuf gras dont j'ai fait l'abattage hier. Amarle, achle, mi choufre, choufre. L'autre lui répond, j'en ai déjà mangé, et en plus de la meilleure partie de ce bœuf. Amarle, minalach. Le chocher lui demande, d'où avais-tu de cette viande? Amarle, des avan plouni, oved kochavim. L'autre lui répond, un certain goy en a acheté de toi, ve safali, et il m'en a procuré. Amarle, très avdé. Le chochet lui répond, en fait, j'ai fait l'abattage de deux bêtes. Ve'aou, très fave. Et celui dont tu parles, dont tu as acheté la viande auprès du goy, était taref. C'est-à-dire qu'il y avait eu un défaut dans l'abattage ou dans l'animal qui le rendait interdit à la consommation. Une petite parenthèse, pour simplifier, nous désignons le non-juif ou l'idolâtre dont parle la Gemara, par le mot goy, qui signifie appartenant à un autre peuple, et n'a aucune connotation péjorative ou dévalorisante. Amar Rabbi. Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il a entendu cette histoire et que la question s'est posée sur toute la viande qui était ce jour-là en possession des goyim dans la boucherie, car dans cet endroit où la grande majorité des abatteurs et des bouchers étaient Yehoudim, il était d'usage que les goyim achètent de la viande des Yehoudim pour la revendre ensuite en plus petite quantité. Rabbi s'est exprimé ainsi, Bishvil Shoteze She'asa Keloke Hogen, Anu Ne'esor Kolamakulin, en parlant du chochet en question, pour ce fou qui a agi de façon incorrecte, va-t-on interdire toute la viande de la boucherie? Rabbi l'Etahame, Rabbi suivait son opinion, Dehamar Makulin Vetavre Israël, si la boucherie en gros est tenue par des Yehoudim et que la majorité des abatteurs sont également des Yehoudim, Basaranimtsa Biyadovet Kochavim, Mutar, la viande qui se trouve entre les mains des Goyim est permise à l'achat, il n'y a aucune raison de l'interdire. Ika de Amré. Certains ramènent de façon un peu différente l'enseignement de Rabbi. Amar Rabbi, Mipne Shoteze, Deikavon et Tsaure le Chavre, Anu Ne'esor Kolamakulin. Rabbi aurait dit ainsi, à cause de ce chochet inconscient qui a parlé de cette façon simplement pour faire souffrir et être désagréable avec son prochain, va-t-on interdire toute la viande de la boucherie? D'après cette seconde version, comme les deux hommes étaient en conflit, le chochet n'est pas crédible lorsqu'il dit que la viande était taref. La Gemara demande, Ta'ama, Dikaven le Tsaore le Chavre, Alavachi Asur, Rabbi a permis cette viande, car on ne pouvait croire le chochet. Mais est-ce à dire que dans le cas où le chochet aurait été crédible, la viande aurait été interdite? Ve'atania, cela semble contredire une braïta qui rapporte un autre enseignement de Rabbi. Rabbi Omer, Makulin Vetavre Israël, Basara Nimtsa Beyadovet Kochavim, Mutar. Lorsque le personnel de la boucherie et les abatteurs sont Yehoudim, la viande qui se trouve dans les mains des Goyim est permise à la consommation. Donc pourquoi Rabbi a-t-il pris la peine d'utiliser l'argument que le chochet avait l'intention de nuire à son prochain et a donc menti pour permettre la viande? La Gemara répond, Sha'ne'acha deitrazek isure. Notre cas diffère du cas général, car selon les dires du chochet, il y a de façon certaine maintenant de la viande taref dans la boucherie. Dans la braïta que nous venons de citer, où Rabbi permet la viande qui se trouve dans les mains des goyim, il s'agit d'un cas où on n'a pas entendu de façon précise qu'il y a eu de la viande taref dans la boucherie. Mais si on est informé qu'il y en a eu, il s'agit du cas de Itrazek Isura. Il y a une présomption de présence d'aliments interdits dans la boucherie. Et c'est pour cela que Rabbi est ici obligé de faire appel à la non-validité des paroles de ce chofet. Nous avons appris dans le daf précédent qu'il y avait des endroits où lorsqu'il y avait un animal taref déclaré dans la boucherie, on l'annonçait à la communauté pour que personne n'achète de viande d'égoïme. Dans ces endroits-là, donc, lorsqu'il n'y avait pas d'annonce qui était faite, on pouvait acheter la viande d'égoïme. La grande majorité du réseau d'abattage et de distribution de viande était tenue par des Yehudim. Il y avait également des endroits dans lesquels les Chachamim, les Rabbanim, n'avaient pas institué de mesures particulières et donc on n'annonçait jamais. Dans ces endroits-là, évidemment, un Yehudi n'achetait jamais de viande au Goïm. La question qui se pose, de quel type d'endroit s'agit-il dans le cas qui est exposé maintenant dans la Gemara? Comme Rabbi considère qu'il s'agit d'un chochet choté, un chochet inconscient qui a mal agi, il s'agit certainement d'un endroit où on fait l'annonce lorsqu'il y a un animal très fat trouvé dans la boucherie. Car s'il s'agissait d'un endroit où on n'annonce pas, il n'y a aucune interdiction de vendre de la viande à un goy. Mais d'un autre côté, s'il s'agit d'un endroit où on fait l'annonce et qu'il y a eu effectivement un animal taref, pourquoi le second Yehudi a-t-il acheté du goy? On est obligé de dire qu'il s'agit d'un endroit où effectivement on annonce, mais que dans ce cas-là, pour une certaine raison, un cas de force majeure, l'annonce n'a pas été faite. Malgré tout, il restera quand même à déterminer comment ce chochet était-il au courant que l'annonce n'avait pas été passée pour cas de force majeure. Le RAN répond à cette question de la façon suivante. Le cas de notre Gemara est dit pour un troisième type d'endroit, dans lequel il n'y a pas eu de règles précises instituées par les rabbanim de l'endroit en ce qui concerne l'annonce ou la non-annonce en cas d'animal taref. Dans un tel cas, la loi est Assur limkor, mutar liknot. Le chochet n'a pas le droit de vendre de la viande taref au goyim, donc le chochet de notre cas a mal agi. En revanche, comme l'ensemble des chochatim et des bouchers sont yehoudim, il est permis à yehoudi d'acheter de la viande d'un goy, et donc celui qui, dans le cas de notre gemara, a acheté sa viande du goy, avait le droit de le faire. Nous avons dans notre gemara une illustration que lorsque l'auteur de la gemara parle de Haverim, il ne faut pas le traduire par ami, mais par personne liée ensemble par une situation ou une occupation commune. Le mot Haver et le mot Ribour, lien entre deux choses, ont la même racine. En effet, ce chochet s'adressait à son Haver et l'on s'est rendu compte, comme le précise Rashi, qu'il n'était pas dans les meilleurs termes. Amar Rav, Basav, Kevan Shnitalem Mina Ain, Asur. De la viande, même absolument cachère, qui est restée un moment sans qu'on ne la voie, sans qu'on puisse la surveiller, est interdite à la consommation. La raison en est à cause d'une crainte éloignée que cette viande aurait pu être échangée contre un morceau de viande nevela ou tréfa. On prend en compte cette éventualité à cause d'un fait qui s'est produit. Il s'agit d'un issur miderabanan, un interdit institué par les chachamim. Métivé. La Gemara oppose à cet enseignement de Rav la braïta que l'on a citée plus haut dans ce daf. Rabbi Omer, Makulin vetavre Israël, Basar anim sabiyad ovet kohavim, mutar. Lorsque le personnel des boucheries et de l'abattage est constitué de Yehudim, la viande qui se trouve entre les mains des goyim est permise à la consommation. L'objection de la Gemara est la suivante. Comment est-il possible que de la viande qu'on ait un moment quitté du regard soit interdite à la consommation, alors que la viande qui est possédée par un goy est permise? La Gemara répond, Nimtsa beyad oved kohavim, sha'ane. Le fait que cette viande soit détenue par un goy fait toute la différence. Lorsque Rav interdit la viande qu'on a quittée du regard, il s'agit d'une viande qui est laissée sans surveillance aucune. Mais dans le cas de notre braïta, Rashi explique que le goy lui-même garde la viande. Il n'y a pas de crainte qu'il l'ait échangé contre un morceau de viande taref, car il s'agit d'un cas où les goïms n'ont pas de bête à la vente. Cette viande provient donc certainement d'un boucher cachère. Il n'y a pas de crainte non plus que ce boucher ait vendu de la viande taref au goy, ainsi que nous avons vu précédemment qu'il est interdit de vendre de la viande taref au goyim. En revanche, de la viande que l'on a laissée sans surveillance un moment, il est possible, bien que cette éventualité soit plus proche de la réalité au temps de la Gemara que de la nôtre, qu'un corbeau ait pris la viande qui était posée là, en déposant à sa place un autre morceau de viande, nevela ou trefa, qu'il tenait auparavant dans son bec. Tashma, viens écouter une seconde objection qu'apporte la Gemara au din de Rav. Tesha chanuyot, kulan mochot basar shruta, ve'achat mocheret basar nevela. Il est enseigné dans la Braïta s'il y a 9 boucheries qui vendent toutes de la viande cachère, et une boucherie qui vend de la viande nevela, non cachère. Ve'lakach me'achat me'em, ve'eno yodea me'eze me'em lakach. Si quelqu'un a acheté de la viande et ne se souvient plus de quelle boucherie il l'a acheté, sfeko asur. Cette viande, dont la kashrout est mise en doute, est interdite à la consommation. En effet, dans ce cas-là, le doute prend naissance dans un endroit où l'interdit se trouve de façon certaine, même si cet interdit se trouve seulement dans un endroit sur 10. C'est dans ce cas que s'applique la règle talmudique « Kol kavua ke merza al merza dame ». Chaque fois que dans la situation du doute, l'aliment interdit est présent de façon certaine, quelle que soit la probabilité statistique de tomber sur l'aliment interdit, ce doute doit être appréhendé comme s'il y avait autant de chances de rencontrer l'aliment interdit que l'aliment permis. Car dans ce cas, l'aliment interdit est kavua, fixe, il est resté à sa place initiale, et c'est l'homme qui ne sait pas s'il a pris le morceau de viande cachère ou non. Dans ce cas-là, on ne suit pas la majorité. La braïta continue, ou benimtsa, alach acharov. En revanche, si on a trouvé un morceau de viande à proximité de ces 10 boucheries, dont 9 sont cachères, on agira en suivant la majorité et cette viande sera permise à la consommation. En effet, dans ce cas-là, le morceau de viande a quitté son endroit initial et on devra considérer de quel ensemble s'est détaché cet élément. Dans ce cas, la règle appliquée est « kol deparish miruba parish ». Tout élément détaché d'un ensemble est considéré comme faisant partie de la majorité qui constitue cet ensemble. Dans notre cas, il y a 90% de viande cachère, donc ce morceau de viande sera considéré comme appartenant à la majorité et donc cachère. Or, ce morceau de viande, trouvé à proximité de ces 10 boucheries, a été délaissé du regard un certain moment, et cependant, la Braïta le déclare permis à la consommation, ce qui contredit l'enseignement de Rav. La Gemara répond à la défense de Rav, Achanami, Benimtsa Beyadovet Kochavim. La Gemara répond à la défense de Rav. Ici également, il s'agit d'un cas où ce morceau de viande a été trouvé non pas au beau milieu de la rue, mais entre les mains d'un goy. La Gemara apporte une troisième objection à l'enseignement de Rav. Tashma, viens et écoute ce qui est enseigné dans la Mishnah de Marchirin, Perekbet, Mishnatet. Matzaba Basar. Si quelqu'un trouve de la viande dans une ville où vivent des goyim et des yehoudim. Imchai alachacharov tabachim. Si cette viande est crue, on suivra la majorité des bouchers de la ville pour la déclarer kasher ou non. Veimevushal alachacharov ochle basar. Si elle est cuite, on suivra la majorité des consommateurs de viande de la ville. Lorsque la viande est crue, on la considère comme faisant partie de la majorité. Elle sera donc cachère si la majorité de la viande est cachère, en vertu du principe de kol deparish miruba parish. Tout élément qui s'est détaché d'un ensemble comprenant 2 constituants doit être considéré comme appartenant au constituant qui est majoritaire dans l'ensemble de départ. Mais lorsque la viande est cuite, cette viande provient donc de la maison d'un consommateur qu'il a déjà cuisiné, et bien que l'ensemble des bouchers soit des yehoudim, comme la majorité des consommateurs de viande est constituée par des goyim, cette viande a certainement été cuisinée par un goy, et les autres ingrédients utilisés l'ont peut-être rendue interdite à la consommation. Ainsi, lorsque la majorité des consommateurs de viande de l'endroit sont des goyim, la viande cuite trouvée sera interdite à la consommation. Dans la première partie de cette Mishnah, en ce qui concerne la viande crue, on voit qu'on suit la majorité des bouchers de l'endroit. Et cette viande est permise si la majorité des bouchers sont kachers. Qu'en est-il de l'interdiction de bassar shenitale min ha'ayn, l'interdiction de consommer de la viande qui a été quittée à un moment du regard? Vechitema achanami benimtsa beyadovet kochavim. Si tu veux dire qu'ici également, il s'agit d'un cas où la viande est trouvée entre les mains de goy, réponse que l'on a utilisée pour parer à l'objection précédente. Mevushal aler acharov le bassar. Pourquoi dans le cas où on trouve de la viande cuisinée, faudrait-il suivre la majorité des consommateurs de viande? Venirze, on n'a qu'à voir entre les mains de qui se trouve la viande. Ide oved kochavim nakitle, ide Israël nakitle. Est-ce qu'il s'agit d'un goy ou d'un juif qui détient cette viande? S'il s'agit d'un goy, cette viande sera interdite, car c'est certainement lui qui l'a fait cuire. S'il s'agit d'un yéhoudi, elle sera permise. Donc si la Mishnah parlait d'un cas où la viande cuite est trouvée entre les mains de quelqu'un, il n'y aurait pas de sens pour envisager le statut de cette viande de suivre la majorité des consommateurs de viande de l'endroit. On est donc obligé de dire que cette Mishnah parle d'un cas où la viande est trouvée dans la rue. Et dans le début de la Mishnah, on apprend que si la majorité des bouchers de l'endroit sont kachers, cette viande sera permise. Ceci malgré le fait que cette viande ait été délaissée du regard pendant un moment, ce qui contredit l'enseignement de Rav. La Gemara répond pour Rav, « Achabe mayaskinan, ici de quel cas s'agit-il? Beomed veroeu. » On parle d'un cas où l'observateur a vu cette viande tomber d'une maison, et il ne sait pas si elle provient de chez un goy ou de chez un yehoudi. Dans le cas par exemple, où il n'aurait pas vu de quel appartement d'un immeuble cette viande était tombée. Dans ce contexte, cette Mishnah ne constitue plus une question sur l'enseignement de Rav. La Gemara apporte une quatrième objection. Tashma. Viens, écoute ce qui est enseigné dans la Mishnah de Shkalim, Perek Zayin, Mishnah Gimel. Le début de cette Mishnah parle de viande que l'on aurait trouvée dans la cour du Beth Amikdash, du Temple. Dans cet endroit, la majorité de la viande qui circule provient des korbanot, des sacrifices. Cette viande qui est trouvée est donc certainement de la viande de korbanot. Si les morceaux trouvés étaient des membres entiers de l'animal, on présume qu'il s'agit de viande de korban ola, sacrifice qui était brûlé intégralement et dont la procédure était de découper les membres de l'animal. La suite de la Mishnah dit « Nimtza begvulin, evarim nevelot, chatichot mutarot » en ce qui concerne maintenant de la viande trouvée en dehors du temple. S'il s'agit de membres entiers, cette viande sera considérée comme nevela, provenant d'un animal qui est mort sans être abattu rituellement. En effet, le propriétaire d'un animal mort le découper en membres et le jeter. Si l'on trouve en revanche des chatichot, des morceaux plus petits, ils seront permis à la consommation. On parle d'une région où la majorité des bouchers sont yehoudim. Cependant, cela ne semble pas poser de problème à cette Mishnah que cette viande, avant d'être trouvée, ait été certainement délaissée du regard. Vechitema achanami beomet vero eu. Si tu veux dire que, comme dans le cas précédent, il s'agit d'un cas où l'observateur a vu ses morceaux tomber, evarim nevelot amai. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de membres entiers de l'animal, la viande devrait-elle être considérée comme nevela? Il n'y a aucune raison, sauf si quelqu'un témoigne qu'il s'agit de viande provenant d'un animal nevela. La Gemara répond, midea veta ama ela le rav. L'objection que l'on veut apporter est contre rav. A itmar ala. Et il y a justement, au sujet de cette Mishnah de Shkalim, une discussion entre rav et Lévi. Rav amar mutarot mishum nevela. Rav explique que lorsque la Mishnah dit que les morceaux trouvés sont permis, le sens n'est pas qu'ils sont permis à la consommation, mais qu'ils sont permis en ce qui concerne la touma de Nevela. Car, hormis son interdit alimentaire, l'animal qui est mort sans abattage rituel provoque également un état d'impureté pour celui qui touche la viande de cet animal. Rav explique la Mishnah de la façon suivante. Les morceaux de viande trouvés ne rendent pas impur à cause de Nevela celui qui les touche, car il n'y a pas d'impureté dans un cas de doute, mais leur consommation est interdite, mais celui qui en consomme ne subira pas la sanction des coups à cause du doute. En revanche, celui qui consomme de la viande de membres entiers qu'il a trouvé sera passible de coups, car on présume que ces membres proviennent d'un animal Nevela. Velevi Amar, Mutarot Be'achila, pour Lévi, les petits morceaux de viande trouvés sont permis même à la consommation. Ainsi, cette Mishnah de Shkalim ne représente pas une objection à l'enseignement de Rav. Ve'a de Rav, lav befirush itmar, ela mikhlala itmar. L'enseignement de Rav, qu'une viande laissée sans surveillance est interdite à la consommation, n'a pas été dit explicitement, mais a été déduit de l'attitude de Rav. De Rav aveyativ à Mavra de Ishtatit. Rav était assis sur le pont du fleuve Ishtatit. Chazia le Aougavra, et il a vu un homme, nous tournons la page, de Avekame.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Tzadik, He Amud Bet.
De Avekame Chaver Reche. Cet homme était en train de rincer la tête d'un animal dans l'eau du fleuve. Nafal miné. La tête lui a échappé des mains et est tombée dans l'eau. Azal, Aïté Silta. Il est allé chercher un panier. Shada, il l'a envoyé dans l'eau. Asik Tren. Et il a remonté deux têtes dans son panier. Amarav, Avdena Miachi. Rav a dit, est-il possible que cet homme qui a perdu une tête en récupère deux? Asrino n'y allait. Et il a interdit les deux têtes à la consommation. En effet, la seconde tête a certainement été égarée par quelqu'un d'autre, et on ne sait pas s'il s'agit de viande permise ou interdite. Amrele, Rav Kahana, Veravasi, les Rav, des Isura Shriche, des Tera Loshriche, Rav Kahana et Ravasi ont demandé à leur maître Rav, est-ce que les aliments interdits se rencontrent fréquemment et les aliments permis moins fréquemment? Ils voulaient demander, pourquoi ne pas considérer que la seconde tête provient également d'un animal cachère. Amarleu de Isura Shrichetfe. Rav leur a répondu, les aliments interdits se rencontrent plus fréquemment. Tosfot explique, si cet homme n'avait remonté qu'une seule tête, Rav l'aurait permis à la consommation, bien qu'il y a toujours la possibilité que ce soit la tête d'un autre animal. En effet, on parle d'un cas où la majorité des bouchers sont des Yehudim. En revanche, dans le cas où l'homme remonte deux têtes d'animal, il est certain que l'une n'est pas celle qu'il a égarée. Et Rav leur répond que dans ce cas-là, il faut regarder les choses différemment. Bien que dans l'endroit où on se trouve, la majorité des bouchers soient des Yehudim, si cependant on élargit le périmètre, la majorité ne sera plus constituée de Yehudim. Et il est possible que cette tête provienne d'ailleurs, amenée par exemple par un corbeau. C'est pour cela que Rav dit « les animaux interdits sont plus fréquents », c'est-à-dire, si l'on prend comme référence un périmètre plus étendu, les aliments interdits se rencontrent plus fréquemment que les aliments permis. La Gemara continue. Vehi michlala mai. Le fait que l'enseignement ait été déduit par l'attitude de Rav et non dit explicitement, qu'est-ce que cela implique? Parveta de ouvde kochavim avai. Il s'agissait d'un port fréquenté essentiellement par des goïms. Rav a donc peut-être agi ainsi, seulement dans ce cas-là. Mais s'il s'agissait dans un endroit où le Rov, la majorité, était des Yehudim, il n'aurait peut-être pas interdit de la viande laissée un moment sans surveillance. Teda, sache que la preuve que cet endroit était fréquenté par des Goïm, des Kahamar Lehu, des Isura Shrichetfe, et que Rav a dit aux autres Chachamim, les aliments interdits se rencontrent plus fréquemment que les aliments permis. D'après le Tosfot que nous avons cité, il faudra comprendre cette preuve de la Gemara ainsi. Même si à l'endroit du port où la tête a été égarée, il y avait une majorité de Yehudim, dans l'ensemble du port, il y a une majorité de Goïm. La Gemara demande, et la Rav Echi Achal Bisre, Rav qui exigeait que la viande ne soit pas quittée du regard, même un petit moment, comment pouvait-il consommer de la viande? La Gemara répond,
Béchate de loalim ene mine. La Gemara répond, en effet, Rav ne consommait de la viande que si elle n'avait pas été quittée du regard depuis le moment de la shrita, de l'abattage. Veibaitema, betsaire vechatuma. Si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Il l'empaquetait d'une certaine façon et y a posé un sceau. Veinami besimana. Ou bien il faisait sur la viande une marque reconnaissable. Ainsi, il n'y avait pas à craindre qu'une autre viande ayant le même emballage ou la même marque lui soit substituée. Kia de Rabbe Baravuna, Mechaterle Atlata Karneta. Ainsi que Rabba Baravuna, qui coupait tous ces morceaux de viande en forme de triangle. La Gemara nous rapporte une anecdote concernant Rav à ce sujet. Rav avec Azil, le Rav Hanan Chatne. Rav était en route pour se rendre chez Rav Hanan, son gendre. Chazé Mavra de Kaate Leapé. Il voit que, dès qu'il arrive à son point d'embarcation, le bateau vient à sa rencontre. Amar, Mavra Kaate Leapai, Yom Atava Lego. Il a dit, si ce bateau vient à ma rencontre, c'est présage qu'une bonne journée nous attend. Il a vu en cela un siman tov, un signe positif. Azal, Kam Ababa, il est allé, est arrivé chez son gendre, s'est tenu devant la porte, Udik Bebazade Dasha, et il a observé par une fente de la porte, Chazé Riuta Detalia. Il a vu qu'il y avait de la viande suspendue dans la pièce. Taraf Ababa, il a frappé à la porte, Nafouk, tout le monde est sorti et est venu à sa rencontre. Rav était un des plus grands de la génération. Atatafre Nami. Même les Shochatim, les abatteurs rituels, sont venus également à sa rencontre. Lo Alim Rav Enemine. Rav, quant à lui, n'a pas quitté la viande des yeux. Amar Lehu, Ichu Ashta, Svitu Lehu Isur et Lebne Barat. Rav leur a dit, en les réprimandant un peu, est-ce que vous allez donner des aliments interdits aux enfants de ma fille? Rav faisait référence au fait que, comme tous étaient venus à sa rencontre, ils avaient abandonné la viande du regard. Lo achal Rav me'ahu bisra. Rav n'a pas consommé de cette viande. Maitama. Quelle en est la raison? Imishum ialume alo ialim. Si c'est parce qu'il s'agit de viande qui a été laissée sans surveillance, pourtant Rav n'a pas quitté cette viande des yeux. Et là des nachish. La raison pour laquelle Rav n'a pas consommé cette viande est plutôt parce qu'il a fait le présage d'une bonne journée lorsqu'il a vu le bateau arriver vers lui. Et il avait en cela enfreint l'interdiction de la Torah de faire des présages. Veha amarav kol nachash she'eno ke'eliezer eved Avraham ou ke'yehonatan ben Shaul eno nachash. La Gemara objecte à cette éventualité en apportant un enseignement de Rav lui-même qui dit que tout présage qui ne ressemble pas à ceux qui ont été formulés par Eliezer, l'esclave d'Abraham, et Jonathan, le fils de Shaoul, ne sont pas des présages interdits par la Torah. Donc le présage qu'a fait Rav n'était pas interdit, et pourquoi donc n'a-t-il pas consommé de viande? Le présage qui est interdit par la Torah dans l'interdiction de l'Otena Hashu est un présage sur lequel on compte, sur lequel on s'appuie pour se décider à engager tel ou tel comportement. En effet, lorsque Eliezer est venu chercher une femme pour Yitzhak, il a dit « La jeune fille qui me donnera à boire et également au chameau sera celle qui sera destinée à Yitzhak. » Il s'est appuyé sur ce présage pour prendre sa décision. De même, lorsque Jonathan, le fils de Shaoul, est parti en mission seul avec son écuyer contre les Plishtim, il a dit à son écuyer « On va se montrer aux Plishtim. » En fonction de leur réaction, nous allons décider de notre attitude. S'ils disent « Restez là-bas jusqu'à ce qu'on arrive à vous », on n'attaquera pas. Mais s'ils disent « Lorsqu'ils nous voient, ils sont en train de monter vers nous », qui peut s'entendre également « Ils sont en train d'avoir le dessus sur nous », de nous dominer, ce lapsus sera pour nous un signe révélateur que Hachem va nous donner la victoire. Aussi bien pour Eliezer que pour Jonathan, il semble que leur présage les a amenés à prendre leur décision. En revanche, dans le cas de notre Gemara, Rav n'a rien décidé par rapport à son présage, mais s'attendait simplement à passer une bonne journée. La Gemara propose enfin, pour justifier l'attitude de Rav qui n'a pas mangé, « Ela Seudat Areshut Avay, Verav, Lomitane mi Seudat Areshut. Il s'agissait d'un repas commun et non d'un repas de mitzvah, c'est-à-dire d'une occasion où il y a une mitzvah de faire un repas, comme pour un mariage, un bidyon aben, ou un siyum maserhet, la clôture de l'étude d'un traité de la Gemara. Et Rav ne participait jamais à un repas, hormis les seudot mitzvah, les occasions où il y a une mitzvah de faire un repas. Il est possible que cette attitude de Rav de ne pas consommer d'un repas qui n'est pas de mitzvah concerne uniquement la viande, comme la question de départ de notre Gemara, qui est pourquoi Rav n'a pas consommé de cette viande.
Mais en ce qui concerne le pain et les plats d'accompagnement, Rav s'autorisait à en consommer, même s'il s'agissait d'un repas qui n'était pas de mitzvah. Tosfot pose une question connue. Comment est-il possible, étant donné qu'il existe une interdiction de la Torah de l'Otenachashu de ne pas faire de présage, que Eliezer et Yonatan aient transgressé ce commandement? Tosfot donne deux réponses pour chacun des deux cas. En ce qui concerne Eliezer, il dit que lui non plus en fait ne s'est pas appuyé sur ce nirouch, sur ce présage entièrement. En effet, il n'a décidé de façon définitive de la prendre pour femme pour Yitzhak et ne lui a remis les bracelets uniquement après qu'elle lui ait dit qu'elle était la fille de Bethuel et qu'elle était donc de la famille d'Abraham. Pourquoi alors la Gemara dit-elle qu'un nachash, un présage comme celui d'Eliezer, est-il interdit? C'est ainsi qu'il faut comprendre la Gemara. Si Eliezer s'était appuyé entièrement sur ce présage et lui avait donné un crédit tel qu'il agisse uniquement en se basant sur ce présage, ça aurait été un exemple type du nirouche interdit par la Torah. Mais comme lui ne s'est pas appuyé sur ce présage au point qu'il lui dicte son comportement, il n'a pas enfreint l'interdiction. Quant à Yonatan ben Shaul, son intention était uniquement de motiver son écuyer, et Tosfot dit que même si le nirouche, le présage, ne s'était pas réalisé, Yonatan aurait quand même agi comme il l'a fait, et aurait quand même attaqué les plishtim. Rabbi Akiva Eger nous renvoie au commentaire du Radak sur Shmuel Aleph, Perek Yud Dalet, et celui-ci explique ainsi l'interdiction de l'Otenachashu de ne pas faire de présage. Pour lui, l'interdiction existe seulement s'il s'agit d'un présage répandu, proche de la superstition, tel que le pain est tombé de sa bouche, son bâton est tombé de sa main, un cerf lui a coupé la route, un corbeau l'a appelé, signe qui était censé présager d'un avenir défavorable de l'action entreprise. En revanche, dit le Radak, si c'est l'homme lui-même qui décide et choisit que pour lui tel signe sera signe de réussite, il n'y a pas d'interdiction de faire des présages. Et Eliezer comme Yonatan ont choisi tous deux un signe et ont pris un signe qui tombait sous le bon sens. Eliezer a choisi de prendre celle qui allait donner à boire également à ses chevaux et qui manifestait donc des qualités de cœur développées. Et Yonatan savait, même avant le développement de la psychologie, qu'un lapsus est souvent révélateur. Et dans les deux cas, le signe choisi n'est pas une superstition répandue, mais un signe ponctuel décidé en fonction de la situation. Le Radak explique également notre Gemara. Tout nachash qui n'est pas comme celui de Eliezer et de Yonatan n'est pas un nachash. Il le comprend au sens immédiat. Lorsque l'homme ne base pas son attitude sur une superstition établie, mais que, à l'instar de Yonatan et Eliezer, lui-même se fixe un signe, il ne s'agit pas d'un présage interdit. Et selon le Radak, Rav est également d'accord que les signes d'Eliezer et de Yonatan sont permis, mais que même dans les présages permis, ça n'est pas dans tous les cas où il faut leur prêter attention. Pour lui, de tels signes que l'on se fixe ne sont d'aucune crédibilité. Il n'y a pas lieu même de leur prêter attention. C'est pour cela que la Gemara a recherché une autre raison au refus de Rav de consommer de la viande. Dans le Shulchan Aruch Yoredea, Siman Kufaintet, Seif Dalet, le Rama rapporte « Certains permettent de faire un Siman comme l'ont fait Eliezer et Yonatan. D'autres l'interdisent, et celui qui avance de façon entière et place toute sa confiance en Hachem sera entouré de chesed. Hachem le guidera de façon positive. » Le Tashbetz donne un autre compromis intéressant. Lorsque celui qui formule le présage mentionne le nom d'Hachem dans son présage, comme l'ont fait Jonathan et Eliezer, il ne s'agit pas d'un présage interdit, car il montre qu'il rattache toute sa confiance en Hachem. Dans le cas contraire, il n'est pas évident que toute sa confiance soit placée en Hachem, et donc ce présage sera interdit. Nous reprenons la Gemara. Rav Badik Bemavra. Rav vérifiait s'il devait entreprendre un voyage ou non à l'aide du signe du bateau. Comme on l'a vu précédemment, si le bateau venait vers lui, tout de suite, c'était pour lui un signe que son entreprise allait réussir. Veshmuel Badik Besifra. Shmuel, quant à lui, vérifiait à l'aide d'un sefer, d'un livre, de la Torah écrite. Il ouvrait le sefer et s'il tombait sur un bon verset, c'était pour lui un présage de réussite. Rabbi Yochanan Badik Beinuka. Rabbi Yochanan, avant de s'engager dans une action, demandait à un enfant de lui réciter le pasouk, le verset qu'il avait appris ce jour. Et ce verset dictait à Rabbi Yochanan vers quoi il devait se tourner. En effet, la Gemara dit que depuis que les prophètes ont disparu, une certaine forme de prophétie a été accordée aux enfants et aux fous. Kol Ushne Derav avait katavlé Rabbi Yochanan le Kadam Rabbeinu Shebe Bavel. Tant que Rav était vivant, Rabbi Yochanan introduisait sa correspondance avec Rav en écrivant « Je présente mes salutations à notre Rav qui est en Bavel, en Babylone. » Enach Nafshe avait katav le Shmuel le Kadam Chavreinu Shebe Bavel. Lorsque Rav est niftar, qu'il est décédé, Rabbi Yochanan écrivait à Shmuel, qui était le successeur de Rav, en commençant par « Je présente mes salutations à notre Chaver qui est en Bavel. » Chaver ayant le sens d'égal à égal et non de maître à élève. « Amar lo yada li mide de rabbe ana. » En constatant cette différence, Shmuel a dit « N'y a-t-il pas un sujet que je connaisse et que Rabbi Yochanan ne connaisse pas pour que je sois appelé son Rav ?» Shmuel pensait également qu'il y avait un rapport hiérarchique de maître à disciple entre lui et Rabbi Yochanan. Katav Shadarle Ibura de Shitin Shane. Shmuel a donc envoyé à Rabbi Yochanan une lettre dans laquelle, par ses calculs, il prévoyait les 60 années embolismiques à venir, c'est-à-dire les années qui ont un second mois de Hadar et qui ont 13 mois. La Gemara rapporte que, hormis son date Torah, Shmuel était particulièrement brillant en astronomie, en médecine et dans l'ensemble des sciences. Amar Ashtar, Rujbena Be'alma Yada. Rabbi Yochanan a répondu, le fait qu'il soit brillant dans les calculs ne m'oblige pas à m'adresser à lui en tant que Rav. Katav Shadarle Tlesar Gamle Sveket Revta. Shmuel a alors écrit et envoyé à Rabbi Yochanan la charge de 13 chameaux, ou selon la version de Rabbi Yochananel, 13 gvilés, rouleaux de parchemin, sur lesquels étaient écrites toutes les questions qu'il avait concernant les doutes sur les animaux tréfa, c'est-à-dire comportant des défauts dans leurs organes qui les rendent interdits à la consommation. Rachid dit qu'il s'agissait des doutes concernant les oiseaux tamés, interdits à la consommation, détaillés dans le daf Samerbet Amudbet de notre Gemara. Amar Hitler Rav Bebavel. Lorsque Rabbi Yochanan a reçu la seconde lettre, il a dit « J'ai un Rav en Babylonie. » Ezil Achazier. Je vais aller le rencontrer. Amar Leleinuka. Psokli Psokecha. Comme à son habitude, Rabbi Yochanan demanda à un enfant de lui réciter le verset qu'il venait d'apprendre. Amarle ou Shmuel Met. L'enfant lui a récité le verset de Shmuel Aleph, chapitre Kafret, qui dit Shmuel et Niftar. Il a quitté ce monde. Amar Shmamina Nach Nafshe de Shmuel. Rabbi Yochanan dit, je dois comprendre d'ici que Shmuel n'est plus de ce monde. La Gemara commente, Velohi, Lo Shechiv Shmuel. Ce n'est pas le cas. Shmuel n'était pas Niftar, et là qui hérit de l'olitra Rabbi Yochanan. Et si, Minashamaim, l'enfant a récité ce verset, c'était simplement pour éviter à Rabbi Yochanan le dérangement d'un tel voyage. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bait Tinok Veisha, Afal Pishen Nachash, Yesh Siman. Il est enseigné dans une braïta au nom de Rabbi Shimon ben Elazar qu'en ce qui concerne la maison, l'enfant et la femme, bien qu'il n'y a pas à faire de présage, mais il y a cependant à considérer comme un signe positif ou non, si après qu'un homme ait acquis une nouvelle maison ou eu un nouvel enfant ou se soit marié, et qu'après un de ces trois événements, il entreprend une affaire, si cette affaire réussit, c'est un bon siman,
qu'il aura une atzlacha, une réussite, et il doit continuer. Sinon, qu'il ne s'habitue pas à trop sortir, car il y a à craindre qu'il ne réussira pas. Ainsi explique Rashi. Amar Rabbi Elazar, Veudei Trazek, Tlatazimne. Rabbi Elazar ajoute, il s'agit d'un cas où la réussite ou la non-réussite s'est reproduite à trois reprises. Dirtiv, Yosef Eneinu, Veshimon Eineinu, Veet Binyamin Tikahu, ainsi que dit le verset dans Bereshit Membet, Yaakov dit à ses enfants, maintenant que Yosef a disparu et que Shimon est retenu en Égypte, si vous prenez encore Binyamin et qu'il lui arrive quelque chose, il y aura eu à trois reprises des événements négatifs et il se pourrait que les malheurs ne cessent de m'advenir. Ba mine Ravuna merav, ba Ravuzin maou. Ravuna a demandé à Rav. Nous avons vu précédemment que s'il y a un signe reconnaissable sur le morceau de viande, même si elle a été quittée du regard, elle est permise à la consommation. Qu'en est-il, demande Ravuna, si cette viande est enfilée sur un fil? Amarle, al teishote bacharuzin, arezesiman. Il y a deux façons d'expliquer la réponse de Rav que donne Rashi. La première est ne sois pas stupide au point de poser la question de charuzin, de la viande enfilée. La seconde explication est ne sois pas stupide. La viande enfilée est un bon siman. Ikad emre amaravuna amarav, bacharuzin arezesiman. Certains enseignaient directement l'enseignement de Ravuna au nom de son maître Rav, sans l'enseigner sous forme de questions-réponses. Baharuzin, la viande qui est enfilée. Arezesiman, c'est un bon signe de reconnaissance. Rav Nachman Minardea, Ikla le Gabe, Rav Kana, le Fumna Arab et Male Yomadik Pure. Rav Nachman de Nardea s'est retrouvé chez Rav Kana, à côté du fleuve, la veille de Yom Kippur. Atu Orve, Shadu Kavde, Vekulieta. Des corbeaux sont passés et ont fait tomber, non loin des deux rabbanim, des morceaux de viande, des morceaux de foie et de rein. Amarle shkol ve echol, l'un des deux rabbanim a dit à l'autre, tu peux les prendre et les manger. Aïdna de terach riartfe. En ce moment, la viande kasher est beaucoup plus fréquente. En effet, la veille de Yom Kippour, tous les animaux abattus le sont par des yehoudim. Il n'y a pas de crainte à avoir. Rafria baravin, idbadle karkesha benedana. Rafria Baravin avait égaré un morceau de viande entre des tonneaux. Atal Kamed Ravuna a marlé. Il est venu ensuite demander à Ravuna, après avoir récupéré sa viande, qui était restée sans surveillance un moment, est-ce qu'il a le droit de la consommer? Ravuna lui a demandé, Itlecha Simana Begave, est-ce que tu connais un signe distinctif sur ce morceau de viande? A marlé l'eau. Il lui a dit, non. Itlecha Tviutena Begave, est-ce que tu serais capable de reconnaître ce morceau de viande à son aspect général? Amarle in, il a dit, oui. Imken zil shkol. Si c'est ainsi, tu peux aller le prendre. Et évidemment, le consommer. Nous voyons ici qu'il y a deux éléments de reconnaissance d'un objet, ou bien un siman, d'être capable de citer un signe distinctif, un détail caractéristique qui fait qu'on va reconnaître cet objet, ou bien une tviut ein, un coup d'œil, une reconnaissance globale qu'il s'agit de notre objet, sans pour cela être capable de citer un détail caractéristique de cet objet. La Gemara nous rapporte des faits semblables qui ont été répertoriés. Rav Hanina Chosa Itbadle Gava de Bisra. Rav Hanina Chosa avait également égaré un certain morceau de viande. Atal Kamed Rav Nachman. Il est venu poser la question à Rav Nachman. Amarle Itlecha Simana Begave. Rav Nachman lui a demandé, est-ce que tu as un siman sur ce morceau de viande? Amarle Lo. Il lui a dit non. Est-ce que tu as tviut ein sur ce morceau? Est-ce que tu le reconnaîtrais de façon globale? Amarle in, il lui a dit oui. Imken zil shkol. Si c'est ainsi, tu peux le prendre et le consommer. Ravnatan Barabaye, idbadle, kibur adetrelta. Ravnatan Barabaye avait perdu une pelote de laine teinte en bleu, azur, qui sert à confectionner les tzitzit en y ajoutant un fil bleu, azur, le Petil Techelet, dont parle la Torah et dont la transmission s'est perdue de nos jours, et dont il fallait à l'époque être sûr qu'il s'agissait bien de la bonne teinture et non d'une imitation. Atal Kamed Rav Frisda, Rav Nathan Barabaye est allé poser la question devant Rav Frisda, Amarle, Itlecha Simana Begave, est-ce que tu es capable de donner un signe distinctif sur cette pelote? Amarle Lo, il lui a dit non. Itlecha Tviutena Begave, est-ce que tu la reconnaîtrais de façon globale? Amarle in, il a dit oui. Imken zil shkol. Si c'est ainsi, tu peux la prendre et la garder pour confectionner les tzitzit. Nous concluons ainsi le cours sur le Daf Tzadik He. Choulin, Daf Tzadik Vav. Le cours commence à la fin de l'avant-dernière ligne du Daf Tzadik He Amud Bet. Nous avons parlé dans le Daf Tzadik He de l'interdiction de Rav de consommer Bassar Shinitalem Minaïn, de la viande que l'on a quittée du regard un moment. La raison en est que pendant le temps où on s'en est détourné, un corbeau ou un autre animal peut avoir échangé ce morceau de viande contre un morceau de viande Nevela ou Trefa. Mais si l'homme détient un signe distinctif de ce morceau de viande, il pourra la consommer, car il n'est pas plausible que la viande déposée, en échange de la sienne, ait la même marque distinctive que la sienne. On a appris également que ce n'est pas seulement le siman, le signe distinctif qui permet d'attribuer la viande à son propriétaire et lui en permettre la consommation, mais également la tviout ayn, le coup d'œil qui fait que le propriétaire a une reconnaissance globale de l'aspect de ce bout de viande. Avant de poursuivre, nous allons être mesik shmateta liba de ilcheta, c'est-à-dire donner, à partir de cette gemara, l'avis qui est retenu par les décisionnaires et que nous appliquons dans notre comportement quotidien, à savoir la halakha. Selon Rashi, l'avis de Rav n'est pas retenu dans la halakha. Pour lui, une bassar chez Nitala Minahain, une viande qu'on a quittée du regard, est permise à la consommation. Quelle en est sa preuve? Lorsque Rav Nachman est allé chez Rav Kahana et Rav Yom Kippour, et que les corbeaux ont jeté à côté d'eux des morceaux de viande, ils ont été permis à la consommation, bien qu'ils avaient été quittés du regard. Les Tosfot sont en désaccord avec Rashi, car dans le cas de Rav Nachman et de Rav Kahana, il s'agissait d'un endroit et d'un jour, la veille de Yom Kippour, où toute la viande qui avait été abattue aux alentours était kshéra avec certitude. Mais selon eux, lorsque ce n'est pas le cas, le doute d'échange de notre viande par un morceau de viande nevela ou trefa doit être maintenu. La halakha finalement retenue dans le Shulchan Arour Yoredea Siman Samer Gimel Halakha Aleph suit l'avis de Tosfot, c'est-à-dire que l'on retient la position de Rav dans la halakha. Ainsi tranche également le Rambam. Dans le cas où l'homme possède des signes distinctifs ou une reconnaissance globale de ces morceaux de viande, ils seront permis, même s'ils sont restés un moment sans surveillance. Le Rajba précise que la reconnaissance globale, la Tviout Ayn, doit être acquise avant que le morceau de viande soit égaré ou soit laissé sans surveillance. Elle ne sera pas valable dans le cas où on n'avait pas prêté attention à l'aspect de ce morceau de viande et qu'une fois qu'on l'a perdu et ensuite retrouvé, on a dit « c'est lui, je le reconnais ». Car comme dit le Rajba, « Pe'amim Ayn Meshaker », de nombreuses fois notre regard nous trompe, on croit qu'il s'agit de ce morceau de viande, alors que ça n'est pas le cas. Nous commençons la Gemara à la fin de l'avant-dernière ligne du Daf Tzadik He Amud Bet. Amar Rava Miresha Ava Amina Siman Adif Mitviutena. Nous avons déjà établi qu'il y a deux façons pour celui qui a perdu un objet en général de le récupérer, et qu'ainsi celui qui a trouvé l'objet soit assuré que celui qui prétend en être le propriétaire ne ment pas. Ou bien il va donner des signes distinctifs de l'objet qui permettent de l'identifier, les simanim, ou bien il a tviout ayn, il reconnaît l'objet de façon globale à son aspect général. Rav a dit, au départ, je pensais que donner des simanim, les signes distinctifs, était une preuve de propriété préférable, était mieux que tviout ena, la reconnaissance globale de l'objet. Le Rav Yeshe Yapik explique dans Brachot que lorsque la Gemara dit « adif », mieux, son intention est souvent de dire que les deux moyens sont équivalents. C'est-à-dire que ici, aussi bien les simanim que la tviout ayn sont d'aussi bonnes preuves de propriété l'une que l'autre. C'est donc ainsi qu'il faut comprendre la Gemara. La tviout ayn, la reconnaissance globale, n'a pas de désavantage en tant que preuve de propriété par rapport aux simanim. Elle est mieux que ce que je pensais au départ. Et elle est équivalente au simanim. En effet, nous avons vu dans la Gemara précédente que la tviout ayn était un bon moyen de restituer les morceaux de viande, aussi bon que s'il y avait eu des simanim, mais nous n'avons pas vu que c'était un meilleur moyen que les simanim. Rava explique la raison pour laquelle il pensait au départ que la tviout ayn, la reconnaissance globale, est une moins bonne preuve de propriété que les simanim, les signes distinctifs.
Dea, me'adrinan avetta besimana, car on peut restituer un objet que l'on a trouvé à quelqu'un qui nous le réclame en donnant des signes distinctifs, des simanim. Nous passons au daf tzadik vav amud alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le daf Hayomi quotidiennement en vidéo.